Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, ce soir, rencontre avec l'artiste Béatrice Balcou.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Romain de Bec de Lièvre.
Et c'est que le monde dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Plusieurs boîtes sont installées devant nous, certaines sont ouvertes, d'autres non. Elles contiennent des objets que l'on verra et d'autres que l'on ne verra pas. Elles sont toutes en bois, les objets qu'elles contiennent aussi, mais leurs essences, leurs aspects et leurs odeurs sont différents. Des noms apparaissent gravés sur les boîtes. Suzanne Collins, Anne-Véronica Janssens, Liz Magor. Des noms d'autres artistes. Nous sommes dans un espace qui semble nous attendre, dans l'espace de votre exposition monographique Béatrice Balcou, qui porte le titre « L'économie des apostrophes ». Elle rassemble plusieurs de vos sculptures, installations et vidéos qui ont été conçues sur plusieurs années et interpelle nos manières d'envisager l'espace et les outils d'une exposition et ce que l'on appelle tout simplement une œuvre d'art. Bonsoir Béatrice Balcou.
Bonsoir.
« L'économie des apostrophes », c'est le titre de votre exposition monographique. On peut la voir à la ferme du Buisson, à Noisiel, jusqu'au 10 février. Merci d'être là.
Merci.
Il vient d'où ce titre, l'économie des apostrophes? C'est vous qui l'avez choisi?
Oui, en fait il vient d'un premier titre que j'avais donné à une installation que j'avais montrée en fait dans une exposition collective Unseen au Wills à Bruxelles, qui était les apostrophes silencieuses en fait, et qui comportait trois ou quatre œuvres placebo. Et ce titre lui-même, les apostrophes silencieuses, était inspiré en fait d'un livre de Jean-Christophe Bailly qui s'appelle L'apostrophe muette. Et pour moi, en fait, les œuvres placebo, donc qui sont des sortes de répliques en bois d'œuvres existantes d'autres artistes que j'avais commencé à faire avant de réaliser en fait ce que j'appelle les cérémonies sans titre, étaient des œuvres qui avaient à qui on pouvait difficilement donner un statut en fait, et c'est ça qui m'intéressait. Et dans la définition en fait que donne Jean-Christophe Bailly dans son livre les apostrophes silencieuses, en fait il fait un portrait des, enfin il essaye de définir en fait ce que sont les portraits de Fayoum. Et en fait, il parle d'une complexité temporelle dans ses portraits, qui sont des portraits qui anticipent et en même temps qui prolongent, qui sont un petit peu dans l'entre-deux. Et pour moi, c'était exactement ce que faisaient ces placebos. Et du coup, je les ai appelées les apostrophes silencieuses, parce qu'elles sont aussi silencieuses, voilà.
Ce serait l'idée d'un appel silencieux?
Oui, oui, c'est ça. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on a quelques difficultés à traduire le titre en anglais. Parce qu'apostrophe en français, donc c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est l'idée de ponctuation, c'est l'apostrophe en fait qui vient remplacer quelque chose. Et l'apostrophe aussi, c'est quand on apostrophe quelqu'un, on l'appelle, on l'interpelle. Et en anglais, c'est pas tout à fait clair, voilà. Et dans le titre, donc il y a l'économie des apostrophes, donc l'économie parce que mon travail parle vraiment de de la production, de la diffusion, de la circulation des œuvres d'art, mais aussi d'une certaine économie de moyens. Voilà.
Je disais en introduction qu'en arrivant dans l'espace d'exposition, et notamment cette salle où il y a plusieurs boîtes, donc qui sont des œuvres placebo, ce que vous appelez des œuvres placebo, j'avais la sensation d'arriver dans un espace qui nous attend, nous spectateurs. Est-ce que c'est comme ça que vous le concevez aussi?
Pas qui attend, mais qui accueille. Qui accueille, mais qui n'est pas complètement disponible non plus. En fait, il y a vraiment une... je joue avec ces termes-là. C'est très inspiré de la cérémonie de thé, hein, pas seulement mes performances, mais aussi comment j'envisage l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Il y a comme un regard presque horizontal, même pour les sculptures. Hein, les placebos, c'est presque du ton sur ton. Donc il n'y a pas de hiérarchie. Elles sont toutes au même niveau. Et en fait, dans la manière dont je traite l'espace et la circulation aussi des spectateurs dans cet espace, je vais y venir. En fait, c'est... J'essaye de donner de l'importance à tout, en fait, tant aux spectateurs, à l'espace, aux sculptures, à la circulation, à la trajectoire des gens dans l'espace. Voilà.
J'investis les questions d'espace, les questions... et effectivement, celui du corps, celui de l'observateur, mais en fait, ce sont des expériences que je mets à disposition. C'est un travail abstrait, donc je ne veux pas non plus l'orienter. Il a, avec ses différents niveaux de lecture. Et en même temps, j'essaye de travailler sur ces notions d'espace et ces notions de perception, avec toujours ce désir d'aller un petit peu plus loin et de voir ce qu'on peut y trouver. Ça peut effectivement donner des sentiments d'insécurité à certains observateurs et absolument pas pour d'autres. À ce niveau-là, il n'y a pas d'intention qui est portée de... Effectivement, pour certains, il peut y avoir comme une sorte de violence qui se dégage, mais ce n'est pas non plus l'intention du projet. C'est un projet d'exploration, en fait, d'exploration et de... essayer de comprendre et de développer et d'articuler quelque chose autour de la question de l'espace. Je ne suis pas attachée au fait qu'une œuvre doit être permanente, en fait. Elle peut apparaître, être montrée, avoir une visibilité pendant un moment et puis disparaître. Et puis le protocole permettra éventuellement de la refaire. Mais je ne suis pas du tout attachée à la permanence d'un projet, d'un travail, en fait. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est mis à disposition et mis en partage. Néanmoins, je l'aurai faite et selon les possibilités, elles seront remises en visibilité et en partage.
Béatrice Balcon, on entend la voix de Anne-Véronica Janssens sur France Culture, une archive de 2009, où elle parle de son travail. Et Anne-Véronica Janssens, je le disais en introduction, c'est une des artistes dont vous avez reproduit une des œuvres sous la forme de ce que vous appelez des placebos. Comment est né ce travail-là, cette idée de vouloir reproduire les œuvres des autres?
Je crois que c'est d'abord né plutôt que de reproduire en fait le travail des autres, l'envie en fait de partager le travail des autres et de devenir le passeur du travail des autres. Il y a une réflexion sur la reproduction, sur la copie, la réplique, mais c'est pas le point de départ en fait. Le point de départ, donc, ce sont ce que j'appelle les cérémonies sans titre. Donc j'ai fait la cérémonie sans titre numéro 4 avec une œuvre de Anne-Véronica Janssens qui s'appelle Bain de lumière et qui est en fait une colonne de 4 aquariums remplis d'eau à ras-bord et qui deviennent presque des lentilles quand elles sont remplies d'eau. Ça c'est donc la 4e cérémonie que j'ai réalisée pour le Festival Playground au musée M à Louvain. Et en fait... Avant de réaliser la cérémonie avec l'œuvre originale d'Anne-Véronica Janssens et avec toutes les autres œuvres des autres cérémonies, j'ai commencé en fait à construire des objets en bois qui étaient plus comme des objets de répétition en fait. Pour moi, c'était vraiment inspiré de ma pratique des arts martiaux où on peut utiliser par exemple une épée en bois avant d'utiliser une vraie arme. Et donc j'ai commencé à construire en fait des œuvres donc que j'ai appelées placebo, qui sont des répliques en bois des œuvres d'autres artistes pour m'entraîner ou pour que les autres performeurs que j'engageais s'entraînent avant de réaliser la cérémonie avec l'œuvre originale, un peu pour des questions d'assurance au début parce que oui, mais aussi en fait pour parce que en fait quand je fais mes cérémonies, c'est tout un dialogue en fait avec l'institution qui s'installe
et pour l'institution pouvoir... de l'art contemporain.
L'institution, le musée, le centre d'art, l'institution qui possède une collection, parce que j'emprunte donc à chaque fois une œuvre dans une collection et pour pouvoir la toucher en fait, il faut aussi parfois changer quelques lignes en fait dans le contrat de l'assurance de l'œuvre. Et donc le premier placebo que j'ai fait, c'était pour la cérémonie numéro 3 au Casino Luxembourg. Et donc c'était une œuvre de Bojan Sarcevic. Et une fois après avoir réalisé en fait cette sculpture en bois qui devait servir essentiellement aux entraînements au début, aux répétitions, en fait j'ai trouvé cet objet assez intéressant parce que en fait, personne ne pouvait le définir, personne ne pouvait lui donner un statut. Il était un petit peu dans l'entre-deux, quelque chose qu'on n'arrivait pas à définir. Et j'ai décidé de l'exposer. Et ensuite, c'est presque devenu systématique. Pour chaque cérémonie, donc là, pour l'œuvre de Anne-Véronica Janssens, j'ai créé un objet en bois qui me sert à m'entraîner avant, à trouver le geste juste, à me positionner dans l'espace, aussi à porter le poids. Le poids juste. J'essaye, en fait, c'est pas toujours évident, mais de faire des sculptures en bois qui ont le même poids que l'œuvre originale. Et ensuite, je dispose de ces œuvres placebo, en fait, dans des espaces un peu annexes, sur le chemin, sur la trajectoire du spectateur, jusqu'à l'espace de la cérémonie. Et donc, le spectateur peut voir l'œuvre placebo ou pas. Ça agit un peu comme une sculpture subliminale, comme ça, de l'œuvre. L'œuvre originale, en fait, il n'a aucune information sur l'œuvre hein, qu'il va voir avant la cérémonie. Et donc, ça anticipe. Et en même temps, après la cérémonie, ça prolonge aussi son expérience. Et en 2015, j'ai commencé à exposer ces œuvres placebo ensemble, un peu comme une communauté d'œuvres fantômes, voilà.
Comment s'opère le choix ? Est-ce que le choix des œuvres, c'est vraiment en fonction de la cérémonie ou est-ce que c'est l'œuvre pour elle-même qui est choisie ?
C'est toujours difficile d'expliquer mes choix. C'est souvent lié à un contexte géographique, politique, contexte de la collection en elle-même aussi. Parfois, ça discute aussi avec le concept de la cérémonie. En fait, c'est vraiment tout un cheminement, une discussion aussi avec les responsables de la collection. Et je sais pas comment expliquer, mais enfin, c'est juste une seule œuvre dans une collection, donc c'est un choix particulier. Et une fois qu'on a choisi l'œuvre, en fait, tout le monde est plus ou moins d'accord. On peut pas vraiment expliquer pourquoi.
Il y a une évidence qui apparaît.
Il y a une évidence en fait qui apparaît. Et c'est vrai que si maintenant, en fait, il y a 14 cérémonies qui ont été réalisées, donc 14, avec 14 œuvres, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a certaines œuvres qui sont peut-être d'une facture pauvre, on va dire, ou certaines œuvres qui ont peut-être été délaissées ou qui n'ont pas eu un regard critique, qui ont été choisies. Mais il y a aussi d'autres œuvres qui ne sont pas du tout dans cette vulnérabilité. Voilà, parfois aussi je me mets à l'épreuve, oui, ça dépend.
Dans une des salles de l'exposition qu'on peut voir à la ferme du Buisson, vous donnez à voir des échanges de mails entre vous et les institutions, donc les centres d'art, les musées, où on voit un travail extrêmement précis sur, pour l'emprunt de l'œuvre, quelles sont les dimensions de l'œuvre pour pouvoir éventuellement les reproduire, pour avoir les proportions, etc. Est-ce que c'était important pour vous, justement, de montrer ce travail-là avec l'institution ? Cet échange-là ?
Oui, en fait, parce que les cérémonies et les œuvres placebo sont vraiment un travail humain aussi. Il y a vraiment une discussion avec toutes les personnes en fait qui travaillent dans l'institution. Ça peut être le régisseur, c'est le responsable de la collection, le curateur, mais aussi au niveau de l'administration, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Il me semblait important en fait de montrer en fait
ce travail-là.
Tous ces échanges et cette communauté qui existe autour d'une seule œuvre, finalement. Et aussi, ça c'est quelque chose d'important dans mon travail, il y a vraiment une transparence. Je demande toujours l'autorisation aux artistes. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir la réponse des artistes. C'est aussi comme un portrait, finalement, de chaque artiste. Voilà, donc ça me semblait important de montrer ces mails aussi.
Avec l'idée que c'est aussi un travail collectif que vous accomplissez.
Oui.
Est-ce que l'histoire de l'art, l'histoire des formes, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Ou est-ce l'idée de montrer ces reproductions d'œuvres, les placebos, c'est de les montrer dans une forme d'unicité, enfin, comme si elles existaient de manière autonome ?
C'est plutôt en fait le concept de l'œuvre d'art qui m'intéresse, plutôt que l'histoire de l'art. Parfois il peut y avoir quelques malentendus quand on m'invite pour une cérémonie ou pour une exposition ou... les gens peuvent avoir une attente peut-être d'avoir un discours sur l'histoire de l'art ou un discours d'historienne de l'art. Ou même un discours proche de l'appropriation. C'est pas du tout mon travail, en fait. Moi, je me considère plutôt, oui, comme une sorte de passeuse ou d'assistante, quelqu'un qui serait là, en fait, pour partager ou pour créer, en fait, une autre manière de regarder les choses, de les percevoir. Mais il n'y a pas de transformation de discours
Vous pensez qu'elle est dangereuse, la notion d'artiste ?
La notion d'artiste ? Non. Non.
Ou qu'il faut pas du tout s'en méfier ?
Non. J'ai rien du tout contre la position de l'artiste. Bon, alors, moi, ce qui m'intéressait en tant qu'artiste, c'était un peu peut-être de bousculer cette position avec Julie Pellegrin, la curatrice à la ferme du Huisson, on a beaucoup parlé en fait de cette notion de discrétion, parce que c'est quelque chose en fait que j'essaye d'apporter dans la manière dont je me positionne en tant qu'artiste. En fait, il y a beaucoup de choses dans mon travail qui tournent autour de l'idée de décroissance, d'assistanat, de médiation, de passeur, et c'est toujours des positions en fait secondaires qui vont un petit peu à l'encontre de l'idée de l'artiste qui devrait toujours être au centre, dans la lumière.
Créer du nouveau.
Voilà. Et en tant qu'artiste, en fait, ça me semblait intéressant de choisir une autre posture pour montrer aussi que ce sont des postures qui existent dans une société et que l'artiste aussi peut, pas donner l'exemple, parce que j'aime pas trop cette expression, mais voilà.
Les répliques et donc les œuvres placebo qui sont montrées, est-ce que vous les percevez aussi comme des adaptations d'une œuvre ?
Non, pas vraiment.
Vraiment
en
comme
fait.
Des répliques ?
Non, vraiment... c'est pas vraiment non plus des... Enfin, je les ai appelées des placebos, parce que justement, le statut pour moi est difficile à donner. Mais donc ce sont des répliques en bois d'œuvres existantes, mais qui ne sont pas forcément en bois à l'origine. Donc je passe d'une matière à une autre. Et à chaque fois, en fait, c'est une sorte de défi technique aussi. Donc les placebos, finalement, prennent leur indépendance dans le faire, quand je suis en train de le faire. Et en même temps, sont complètement dépendants aussi de l'original. Pour moi, quand je les réalise, c'est un petit peu comme un rituel, en fait. Je suis vraiment en connexion avec l'œuvre originale dans ses moindres détails. Donc je finis par connaître par cœur l'œuvre originale que je vais manipuler après. Mais pour moi, il n'y a pas d'adaptation. C'est plus un objet transitionnel presque.
Il y a aussi une dimension presque industrielle dans l'idée de produire des répliques. Dans l'idée que... sauf que là, comme les œuvres sont en bois, on a plus l'impression que c'est quelque chose qui relève d'une forme d'artisanat.
Oui, en fait, dans l'idée de... c'est pas du tout une réplique industrielle. En fait, quand on voit les sculptures aussi dans l'exposition, on voit bien qu'elles sont faites à la main.
Ce sont des
exemplaires uniques. Il y a aussi le temps du fer, je trouve, qu'on voit bien dans la sculpture. Et pour vous donner peut-être un exemple, en 2015, je suis allée à New York, et il y a eu un déclic comme ça. Enfin, les placebos existaient déjà, mais ça a été plutôt le déclic pour l'installation de l'œuvre qui s'appelle The Kamiyamoto Boxes, qui sont des petites boîtes, en fait, avec d'autres sculptures à l'intérieur qui peuvent être ouvertes ou fermées par les médiatrices de l'exposition. Et en fait, oui, le déclic donc à New York, ça a été la visite du musée de la collection Frick, où en fait j'ai vu une toute petite peinture flamande qui avait été... Donc le Frick Museum, c'est en fait une très grande collection américaine qui a été constituée avec une famille de génération en génération. Et en fait, dans ce musée, je suis tombée sur une toute petite peinture flamande. Je me souviens plus trop ce que c'était, mais c'était avec un drapé, voilà, un personnage. Et juste à côté, en fait, à 2 mètres, était exposée sa réplique, et qui en fait était une peinture qui avait été achetée par la fille du collectionneur, qui avait acheté l'autre peinture, l'original. Et la réplique était un peu fade, le drapé était moins travaillé. Mais en fait, il y avait dans cette envie de répliquer, de refaire, quelque chose d'assez émouvant. C'était une peinture en fait qui était censée voyager, et voyager en fait pour transmettre. Et j'aimais bien cette idée en fait. Donc c'est pas forcément l'idée d'adaptation qui m'intéresse, mais c'est plutôt de transmission. Oui, voilà, dans la relation entre ces deux petites œuvres, voilà, c'est ce qui m'intéressait, l'amour aussi que porte la réplique à l'œuvre originale et son envie de transmettre et aussi de reproduire par le faire, de passer du temps. Voilà.
La cérémonie du thé, c'est une sorte de rituel pour vénérer ce qu'il y a d'esthétique dans la vie quotidienne. C'est un art qui a été développé d'abord par l'aristocratie, et même si après, donc, ce grand maître Sen, 17e, 18e siècle, est devenu même un art pratiqué par la bourgeoisie, mais quand même, de l'origine, c'était lié au shogunat d'Ashikaga, 15e, 14e, 15e siècle, et aussi beaucoup d'aristocrates, des samouraïs, donc il reste toujours ce côté noble de cet art. La saveur du thé, c'est, selon le grand maître de l'école Sen, c'est d'être le plus simple possible, et le geste doit être le plus court possible, le plus vite possible. Vous savez, on ne doit pas, comment dirais-je, faire une grande cérémonie. Et le geste minimum et simplicité maximum.
Béatrice Balcou, on entend une archive de France Culture de 1997, c'est Isanori Isomura qui parle de la cérémonie du thé. Comment vous avez été mise en contact, vous, avec ce rituel-là, la cérémonie du thé au Japon?
C'est une longue histoire. En fait, je suis allée une première fois en résidence au Japon en 2009 avec l'Institut français. Et... pour étudier en fait le geste, tout simplement. Et j'ai vu une cérémonie de thé là-bas, mais qui m'a pas du tout séduite. Je pense que c'était pour des touristes, c'est pour ça. C'était un peu trop maniéré, il y avait un peu trop d'artificialité en fait dans le dispositif. Mais par contre, à Tokyo, cette même année-là, en fait, j'ai sympathisé avec une femme dans un bar, et elle m'a proposé de m'offrir le thé, et elle, tout simplement, avec les objets qu'il y avait sur la table, elle m'a fait une petite cérémonie de thé. Et j'ai trouvé en fait cet échange magnifique et très simple, mais juste dans l'adresse qui m'était donnée, très beau. Et je suis repartie avec ça. Et Art Connexion à Lille, en fait, qui est une structure en art contemporain, m'avait proposé en fait d'organiser une soirée pour expliquer la recherche que j'avais fait sur le geste au Japon. Et ça m'embêtait en fait de montrer des images ou des vidéos pour parler du geste. Je savais pas trop comment transmettre en fait ce que j'avais compris du geste là-bas. Et donc du coup, j'ai décidé de détourner en fait le format de la conférence, et de faire croire que j'allais faire une conférence. Et j'ai fait une performance, mais avec les objets de la conférence, donc de mon ordinateur, un vidéoprojecteur. Et tout ce que j'ai fait, c'est de remballer en fait tout ce matériel, mais en utilisant en fait la gestuelle que j'avais rapportée du Japon. Et après cette performance, il y a une spectatrice qui m'a dit, c'est marrant ce que vous avez fait là, c'est on dirait une cérémonie de thé du Japon, mais avec des objets technologiques. Et en fait, j'avais pas vraiment fait le lien en fait avec la cérémonie de thé. Et donc du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, à lire, et toute la philosophie en fait qui sous-tend la cérémonie de thé m'a vraiment intéressée. Et j'ai cherché à Bruxelles ou à Paris à voir d'autres cérémonies de thé. Et j'ai trouvé une adresse à Bruxelles et j'y suis allée un soir, pensant voir une cérémonie de thé. Et en fait, c'était des cours qui étaient proposés pour quelques initiés, 2-3 personnes. C'était un peu secret, très spécial. Et j'ai commencé à prendre des cours, voilà. Et aussi, du coup, à connaître des gens qui font partie de cette famille. Et voilà. Et ensuite, à la villa Kujuyama, j'ai retrouvé aussi d'autres personnes, voilà, qui font partie de cette culture du thé. Et la vidéo que je montre à la ferme du Buisson, en fait, est réalisée avec un autre performeur qui vient d'une école de thé là-bas, à Kyoto.
C'est le geste, et dans l'archive qu'on entendait, la question de la simplicité.
Oui.
Vous vous êtes dit, là, il y a quelque chose à transposer, en tout cas, dans le domaine de l'art.
Oui, en fait, ça m'intéressait d'introduire cette énergie et cette attention aux choses, en fait, dans l'art contemporain. Et les premières cérémonies, peut-être que je peux expliquer ce que c'est une cérémonie, je ne sais pas si je l'ai fait encore.
On a le temps.
Oui. Donc les cérémonies sans titre, en fait, ce sont des rituels pour un petit groupe de spectateurs, environ 25, 30 spectateurs, parfois moins, parfois plus. Ça dépend en fait de l'œuvre que je vais choisir. Donc pour ces cérémonies, j'emprunte une œuvre dans une collection, une seule œuvre. Et la cérémonie consiste à déballer devant les spectateurs l'œuvre, à l'installer, à la contempler et ensuite à la remballer. En suivant les gestes du régisseur, je n'invente rien en fait. Donc c'est pour ça tout à l'heure aussi que je disais qu'il y avait vraiment une collaboration avec l'institution muséale, parce que je dois apprendre les gestes techniques. Parfois ça se fait aussi directement avec l'artiste, hein, comme ça a été le cas par exemple avec Anne-Véronique Janssens. Donc pour ces cérémonies, en fait, j'ai une gestuelle que j'ai commencé à travailler en 2013 et que je continue à pratiquer, et qui est une gestuelle donc inspirée de la cérémonie du thé, du maître de thé, qui a vraiment une gestuelle précise et comme dans l'extrait, voilà, avec une sorte de sobriété. Il va en fait à l'essentiel, il n'y a pas de geste inutile. Il calcule vraiment sa trajectoire. Il y a aussi donc la gestuelle du régisseur, qui est une gestuelle très précautionneuse en fait, parce qu'il manipule quelque chose de fragile et parfois de très cher. Donc ces gestes ont vraiment une singularité. Et il y a aussi en fait la posture du marionnettiste, qui lui va avoir et qui est aussi la posture du maître du thé et du régisseur, une posture assez neutre en fait. Il est derrière, il n'est pas là en train de se montrer en tant que performeur, mais il fait plutôt performer les objets. Voilà. Donc la première cérémonie a eu lieu en 2013 à Liège, dans un contexte assez secret, un peu anarchiste, je ne sais pas. et la deuxième au quartier à Quimper, au centre d'art. La troisième au Casino Luxembourg. La quatrième au musée M à Louvain. Et à partir de la quatrième, en fait, il y a vraiment un protocole qui va être
écrit.
Qui s'est établi. Voilà, et que je vais répéter pour chaque cérémonie. Voilà.
Pour vous, c'est une manière d'amener du rituel. Le rituel, c'est une notion vraiment qui est importante.
Oui.
C'est le geste plutôt.
Sont les deux en fait. C'est le rituel aussi, c'est accepter, je pense, de prendre du temps autour de quelque chose ensemble. Et dans le rituel, et c'est quelque chose qui est aussi revenu lors de mon séjour à la villa Kujuyama, c'est dans la répétition aussi. En fait, j'envisage les cérémonies non pas comme des performances ou des happenings qui aurait lieu juste une fois. Par exemple, la performance numéro 3 ou numéro 4, je peux la refaire des années après. Et souvent, quand je réalise une cérémonie, je la fais plusieurs fois. Mais la pratique des cérémonies, c'est une pratique que j'envisage vraiment comme la pratique de la cérémonie de thé, comme quelque chose que je vais poursuivre, en fait, durant toute ma vie, avec mon corps vieillissant et aussi la gestuelle va évoluer, j'imagine, au fur et à mesure.
Est-ce que c'est pour vous une manière de rendre à l'art, ou en tout cas aux œuvres d'art, leur mystère? Quelque chose du mystère?
En fait, pendant les cérémonies, on a accès à une sorte... comment dire? C'est assez paradoxal, parce que d'un côté, on a cette œuvre devant nous, et puis on voit aussi tout l'emballage... qui parfois n'est pas très intéressant,
très, qui trivial, oui, du plastique bulle.
Voilà, et ça rend l'œuvre finalement un peu pauvre, et une fois qu'elle est installée, elle reprend de la valeur. Donc oui, on est tout le temps balancé entre les deux.
France Culture. Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre. Avec Béatrice Balcou.
Καρδιά μου καημένη, κατάρα σε δέρνη. Πες μου στην σκληρή μοναξιά. Θα πεθάνω ολικιά μου αγάπη, θα με πνίξει ο καημός και το δράκρυ. Αν φύγει θα φύγει η ζωή μου, θα σβήσει η πνοή μου.
Ça meurt dans la coulisse. C'est donc un cri qui veut dire d'est en ouest et qui accompagne l'ouverture du rideau dans le théâtre classique japonais, c'est-à-dire le bunraku, le kabuki et le no. L'accessoiriste qui est tout en noir s'enroule dans le dernier rideau qui s'ouvre. Un autre accessoiriste crie Tozai et l'accessoiriste qui s'occupe du rideau ouvre le rideau en engouffrant son corps, en s'enveloppant. Et en travaillant Tozai, qui s'intéresse donc à ce qui prépare l'événement, à ce qui prépare les choses, il nous a semblé que le Kojiki, qui finalement prépare la naissance du Japon, pouvait être une belle façon d'accueillir le spectateur dans ce projet. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette pièce qui s'intéresse à ce qui prépare l'événement, donc en l'occurrence l'événement théâtral, l'événement dansé, je me suis intéressée à tout ce qui est figure d'avant. Avant une pièce, avant un être, avant un pays, avant une île, avant quelque chose. Et donc avant le spectacle, dans le code du théâtre, c'est le rideau qui fait figure de séparation entre la scène et la salle, et qui permet aussi, par son ouverture, de saluer le début de quelque chose. J'avais aussi besoin que la question de qu'est-ce qu'il y a avant une danse, ou qu'est-ce que les plis de ce rideau contiennent de danse, soit aussi traversée. Les rideaux recèlent toute une histoire de nos gestes et de nos textes et de nos pensées. Qu'est-ce qui se déplie quand on ouvre le rideau ?
Béatrice Balcou, on entend une archive de Emmanuel Huyn, une vidéo du Centre Pompidou en 2016, qui parle d'un de ses spectacles qui s'appelle Tozai, exactement comme une de vos vidéos, qui parle donc de cet avant, de ce qui prépare l'événement. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est au cœur de votre travail, c'est de montrer l'avant, l'avant-exposition, la préparation ?
C'est pas juste l'avant, je crois, c'est tous les moments. J'aime beaucoup jouer avec les différentes temporalités, en fait, lorsque l'œuvre est installée ou lorsqu'elle est en train de dormir dans les espaces dans les réserves, mais aussi quand elle est en mouvement. Et pendant les cérémonies, oui, donc on voit l'avant, quand je suis en train de déballer l'œuvre, on voit le pendant lorsqu'elle est installée, mais on voit aussi l'après. Et l'après est assez beau aussi parce que, par exemple, parfois quand je dois fermer la boîte ou remballer l'œuvre que je viens juste de montrer avec laquelle on a passé un temps long, donc on finit aussi par s'y attacher, j'utilise le papier qui est utilisé par les personnes qui ont emballé l'œuvre. C'est jamais moi qui choisis en fait les matières d'emballage. Je prends vraiment ce que me donne la collection, mais donc souvent ils utilisent un papier qu'on appelle le papier Tyvek, hein, qui est un papier blanc, mais blanc avec beaucoup de lumière en fait. Et quand je rabats en fait le papier sur l'œuvre, c'est presque finalement une cérémonie funéraire. Et c'est très beau, en fait. Et ça, c'est l'après. Donc, il y a aussi cette histoire de rideau, mais qu'on retrouve différemment.
Et qui aussi relève de la cérémonie.
Oui.
Il y a une construction chronologique de la cérémonie avec le dévoilement, l'apparition.
Ouais. Et dans Tozai, en fait, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que ça voulait dire d'est en ouest, mais aussi d'ouest à l'est. Et cette idée m'intéressait beaucoup parce qu'il y a cette idée d'avant, mais aussi d'après. En fait, il y a toujours un aller-retour, un début et une fin, mais on revient toujours au point de départ, en fait. Et dans la cérémonie de thé aussi, c'est ça. On prépare les objets, on fait la cérémonie, mais après, on prépare les objets pour la prochaine cérémonie. On lave aussi les objets devant les invités. Et dans mon travail, que ce soit les performances ou la vidéo Tozai qu'on voit à la ferme du Buisson, il y a aussi cette idée, on part d'un point, mais on revient à la fin, on revient toujours à ce même point, comme si on pouvait encore répéter une nouvelle fois le même rituel.
Mais d'une certaine manière, c'est comme si vous rendiez les œuvres vivantes au sens des vivants.
Mmh, oui.
Comme on peut considérer que le thé est une chose vivante, mais qui doit être consommée.
Oui.
C'est une certaine manière de le rendre l'œuvre consommable, mais plutôt comme une chose vivante.
Oui. Ou alors on pourrait dire que l'œuvre serait aussi importante que la personne, l'humain qui la manipule, ou l'espace qui l'accueille. Que chaque élément finalement a sa place. Et a autant d'importance. Donc c'est pas seulement le performeur, l'humain, qui a plus d'importance que l'objet. Ils sont sur une même ligne, en fait.
Qu'est-ce que vous faites de la notion de sacré, que peut éventuellement comporter toute cette idée de rituel, de cérémonie ?
Ouais, en fait, elle ne me dérange pas du tout. En fait, pour moi, l'art, c'est vraiment très, très important. Et oui, ça ne me dérange pas, en fait, qu'on mette ça sur un piédestal. Mais en même temps, c'est vrai que dans les expositions ou dans les performances, je parle aussi de tout cet aspect très, très quotidien de l'œuvre, en fait, comme si elle faisait partie aussi d'une vie quotidienne. Donc il y a toujours quand même un balancement entre cette idée de sacré et cette idée très matérielle en fait de l'œuvre. Donc je suis toujours entre les deux.
Tout votre travail est centré autour de l'idée de vouloir changer une forme de perception qu'on peut avoir des œuvres. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Qu'est-ce qui ne va pas ?
Dans la manière qu'on a de percevoir les œuvres.
Il y a des choses qui vont, hein, mais... Il y a des choses qui ne vont pas aussi. Je sais pas. Par exemple, ce qui me dérange, c'est parfois la disponibilité constante des choses, en général, mais aussi dans le milieu de l'art, oui. Comme si tout devait être accessible tout de suite. Et j'aime bien cette idée, en fait, que le spectateur doit faire aussi un effort lui-même pour trouver sa place. Devant cette œuvre, trouver une relation entre lui et cette œuvre. Je réfléchis beaucoup à cette idée de médiation en fait entre le spectateur et l'œuvre. Et parfois, quand il y a un trop plein de médiation, il y a plus de place en fait pour le spectateur. Et ça c'est quelque chose qui me dérange. Et par exemple, dans les cérémonies. En fait, les spectateurs n'ont aucune information sur l'œuvre qu'ils regardent, si ce n'est à la fin, quand je distribue en fait à chaque spectateur une petite carte de visite avec le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, les matériaux utilisés, tout ça, enfin comme un cartel qu'on mettrait sur le mur de l'exposition. Mais en fait, ils passent à peu près 30 minutes, c'est le temps approximatif de chaque cérémonie, avec une œuvre, mais de manière presque brute. Hein. Donc il a tout ce temps en fait pour se trouver lui-même à travers la matérialité en fait de l'œuvre qu'il a devant lui.
Il y a l'idée dans les objets qui sont exposés à la ferme du Buisson que vous présentez aussi qu'il faut les activer. Mm-hmm. Qu'il y a d'une certaine manière ils sont là, mais ils ont besoin d'un opérateur, d'un performeur, d'un spectateur mm-hmm. pour être activés. Comme si on pouvait pas penser l'œuvre de manière autonome.
Oui, c'est vrai que chaque sculpture, finalement, ou chaque protocole est, comment dire, agissant. Ils impliquent soit une action qui a été réalisée avant, ou soit qui va être réalisée par le médiateur, le spectateur ou d'autres. Par exemple, donc il y a les objets placebo qui ont un protocole, donc ils peuvent être exposés pendant toute la durée de l'exposition, mais aussi juste 3 jours ou quelques heures. Ils peuvent changer de place, un peu comme des œuvres fantômes en fait, qui apparaîtraient de temps en temps. C'est plutôt une manière de travailler la temporalité en fait, et le fait aussi que pour moi les choses ne sont pas forcément toujours au même endroit, qu'en fait les choses se comprennent selon la manière où on s'installe, et voilà, tout ça est en mouvement. Il y a aussi ce Kamiyamoto Boxes qui sont en fait un ensemble de 7 boîtes qui contiennent toute une petite réplique, elles tiennent dans, je sais pas, elles font pas plus de 30 cm, je crois. Et donc, ce sont des répliques, en fait, des œuvres de Kazuko Miyamoto, qui est une artiste de presque 80 ans maintenant, et qui, voilà, a eu une carrière un peu en dents de scie. Et donc, je l'ai rencontrée, en fait, à New York aussi, et ce que j'ai pu voir en fait, c'est que certaines œuvres étaient en train de mourir parce qu'elles n'avaient soit pas été acquises par des collections, et du coup Kazuko Miyamoto n'avait pas la possibilité de bien les conserver, ou alors parce que c'était des œuvres qui n'avaient pas reçu un regard critique. Et donc j'ai fait des répliques de ces œuvres un peu mourantes, et les médiatrices sont invitées à inviter d'autres personnes personnellement en fait à ouvrir ces boîtes et à commencer une installation ensemble de ces boîtes dans l'espace comme un régisseur, et en commençant une discussion autour de l'œuvre de Kazuko Miyamoto. Donc il y a vraiment aussi l'idée dans cette installation d'avoir un contact presque personnel avec ses œuvres, par le toucher, par la parole. Et presque un privilège aussi. Et sensible, oui. Et après, il y a les œuvres assistantes, les pièces assistantes. Et là, donc, l'action a plutôt lieu avant. Ce sont des pièces, en fait, qui sont censées assister une autre œuvre. Et lors de l'installation, en fait, voilà, c'est toute une discussion qui a lieu entre l'œuvre assistée et l'œuvre assistante. En fait, certaines œuvres assistantes se sont un peu rebellées, on va dire. Elles voulaient aussi être visibles et ne pas être en second plan. Donc, elles ont décidé de virer l'œuvre assistée.
Mais vous en parlez encore comme des choses vivantes.
Oui, bah oui, oui, oui.
Mon grand-père, il m'a transmis son savoir-faire. Sa technicité, son envie de travailler dans le bois, en fait. Et mon grand-père, il était amoureux du bois. Mon grand-père, il a été celui dans mon petit village qui a construit la première maison en bois. Ça n'existait même pas à l'époque parce que tout était fait en terre et tout ça. Et il a été le premier à faire la maison, une maison en bois. Et cette maison en bois est restée longtemps. Vous comprenez? Mon grand-père, il adorait le bois. Il travaillait dans le bois. Il faisait tous ses meubles lui-même. Et à l'époque, j'étais très fasciné par mon grand-père. Par avoir des travaux. Ma mère me disait, mais tu sais, cette banquette-là, elle date de... Elle a l'âge de ta grande sœur, de ton aîné. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Tu te rends compte? Ça a 30 ans, ce truc. Elle me dit, ben oui. Et donc, moi, aujourd'hui, ça se sent dans mon travail. Je ne peux pas... J'aime bien le métal, mais je ne peux pas me défaire du bois. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire le mélange de bois et de fer. Parce que je suis un homme amoureux du bois. Parce que je sais que c'est profond. C'est un héritage qu'on m'a laissé.
Béatrice Balcou, on entend la voix du designer César Dogbo, une archive de RFI en 2005, qui parle de son rapport au bois et du rôle qu'il a pour lui dans l'héritage et dans la transmission. Ce que j'ai trouvé qui unifiait d'une certaine manière l'exposition qu'on peut voir de votre travail à la ferme du Buisson, c'est justement cette matière-là, c'est le bois. Mmh. On voit du bois. Pourquoi le bois ?
Pourquoi le bois ? Donc, parce que c'est déjà une matière facile à travailler avec un poids qui n'est pas trop léger en fait pour être manipulé ni trop lourd. Donc c'est la matière parfaite en fait pour créer des objets qu'on manipule. Ensuite, j'ai commencé ça un peu juste après la cérémonie numéro 3. Et il faut savoir que les objets en bois, je ne suis pas toute seule à les réaliser.
Il y a des sculpteurs qui travaillent avec vous.
Oui, parce qu'en fait, il faudrait que j'ai vraiment un atelier de menuiserie, parce que ce n'est pas vraiment moi qui choisis les formes. Je pars de formes existantes. Donc parfois, il y a vraiment des défis techniques en bois à faire, de passer d'une matière, parfois d'une finesse, par exemple du métal, arriver à la même finesse en bois. C'est parfois très, très, très difficile. Et donc du coup, je me fais aider, oui, par des menuisiers ou des ébénistes. Et moi-même à côté, en fait, j'ai suivi une petite formation en ébénisterie pour pouvoir continuer. Donc quand je peux les réaliser, je le fais moi-même parce que c'est très important pour moi de pouvoir le faire. Ou sinon, parfois le menuisier fait une partie, je fais l'autre partie. Enfin, je travaille avec un menuisier principalement, Jan Weckmans, qui habite à 2-3 rues de chez moi. Et donc du coup, je fais des allers-retours entre son atelier et mon atelier. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et il y a une certaine beauté à travailler le bois, parce qu'en effet, c'est comme une matière assez noble comme ça. Ça passe beaucoup par le toucher et aussi au niveau de la formation. Donc finalement, à chaque sculpture, en fait, je me forme moi-même. Comme je me forme aussi à chaque cérémonie en tant que régisseuse, presque. Puisque à chaque fois, chaque œuvre demande une gestuelle particulière. Donc j'apprends au fur et à mesure. Et pour les sculptures en bois, c'est pareil. C'est vraiment à chaque sculpture, j'apprends quelque chose de nouveau. Et c'est assez agréable, en fait.
Vous articulez votre pratique, justement, d'artiste avec la question, justement, des savoir-faire, qui peuvent être artisanaux ou qui peuvent être de diverses natures. Est-ce que le savoir-faire, c'est quelque chose qui importe pour vous?
Oui, c'est plutôt en fait le savoir-faire, mais le temps qu'on passe à faire quelque chose, à peaufiner une matière, à peaufiner un arrondi. Après, quand on est dans l'exposition et que je présente chaque sculpture, j'aime beaucoup en fait parler des détails de chaque sculpture. Par exemple, pour le placebo de Suzanne Collis, il y a vraiment un gros travail de marqueterie qui ne se voit pas forcément. Il faut vraiment regarder en détail. Et j'ai aussi dû reproduire en fait des clous qui à l'origine étaient en or ou en métal tordu, mais là j'ai dû le faire en bois, donc j'ai essayé plein de techniques pour pouvoir plier le bois et que ça reste aussi dans le temps, parce qu'en fait l'œuvre a été acquise par le CNAP en 2017. Donc voilà, toutes ces choses aussi. Et le bois aussi, c'est une matière vivante, donc il y a en fait aussi toute une réflexion sur comment le bois va évoluer aussi au fur et à mesure des années. Et par exemple, il y a un placebo d'une œuvre de Nina Beyer, qui son œuvre était aussi en bois, mais en fait avait deux fissures. Et quand j'ai reproduit son œuvre, en fait, j'ai repris un bloc de bois qui avait les mêmes fissures. Et c'est assez drôle parce que c'est une œuvre qui a été acquise par le FRAC Franche-Comté, et je demandais à ce que mon placebo soit placé juste à côté de l'œuvre originale de Nina Beyer, et les deux œuvres ont évolué un peu de la même façon, en fait elles se sont un peu élargies.
Tout l'enjeu, c'est d'arriver à essayer de comprendre ces formes d'expérience où il ne s'agit pas de devenir et de poser une subjectivité, mais où on cesse d'être une personne, où on cesse d'être un sujet ou juste un sujet larvaire. Alors, il y a des expériences extrêmement douloureuses de ça. Et puis, il peut y avoir aussi des expériences extrêmement soulageantes. Quand on cesse d'être une personne, quand on devient un animal, quand on devient... ou quand on rentre dans des formes de vie beaucoup plus indéterminées. Comme on se peint gris sur gris, comme dit Deleuze, où on accède, je crois, à des types de rapports aux autres et au monde qui sont un peu plus respectueux, un peu plus pudiques. Ce qu'on aime, la discrétion, c'est un peu de pouvoir enfin déposer son soi. Je trouve qu'on est dans des sociétés qui fonctionnent à la surnarcissisation, et on est tout le temps encombré de soi, on est tout le temps commis à s'assigner une identité, une place, une possibilité d'être. Bon, ne pas avoir, comme disait Foucault, de papier d'identité, ne pas avoir de détermination spécifique, ne pas avoir de place ni de position, mais circuler au milieu des choses et des autres, ça peut être plus que plaisant, c'est aussi créateur, et puis c'est aussi aimant, parce que je crois que c'est que quand on se déprend un peu de soi qu'on arrive à aimer, que ce soit aimer les autres, les lettres, les paysages. Tant qu'on est encombré de soi, tout revient toujours à qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que ça m'apporte, à son intérêt, à son image, c'est très très fatigant.
Béatrice Balcou, on entend pour finir une archive de Pierre Zaoui sur la question de la discrétion, une archive de France Culture en 2014. Quelle importance la notion de discrétion, vous l'avez évoquée tout à l'heure, quelle importance elle a pour vous?
C'était quelque chose, je pense, qui existait dans mon travail, d'une manière ou d'une autre. Et j'étais assez heureuse, en fait, de tomber sur le livre de Pierre Zaoui. Parce que du coup, ce qui pouvait être peut-être une faiblesse finalement, enfin qui est la plupart du temps considérée comme une faiblesse en fait dans notre société, pouvait à la lecture du livre de Pierre Zaoui être considérée comme une force en fait. Et ça m'intéressait. Lui, voilà, enfin dans son livre, il donne plusieurs définitions de la discrétion, mais il y en a une en fait qui m'intéressait plus particulièrement, c'est quand il décrit en fait la discrétion comme quelque chose, une posture en fait active, dans le fait de pas peut-être, je vais transformer ces mots, mais de mettre trop d'énergie en fait dans les apparences ou dans le fait d'apparaître devant l'autre. Peut-être qu'on comprend mieux les choses, on est plus dans l'observation, et on peut aussi agir en fait de différentes manières et être vraiment un acteur dans la société sans être forcément dans une apparence visible,
Dans une démonstration.
Dans une démonstration, oui, voilà. Et j'aimais bien cette idée, en fait, de pouvoir se positionner en tant que personne dans le monde, tout en n'étant pas obligé d'être dans une démonstration spectaculaire. Ouais.
Il dit dans l'archive qu'il est important pour lui de cesser d'être une personne. Et je me suis demandé si, justement, dans l'exercice du rituel et de la cérémonie que vous pratiquez, ou en tout cas dans le rapport que vous créez avec les œuvres d'art, il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là aussi. On cesse d'être des personnes.
Moi, je préférais en fait dire que on ne cesse pas d'être des personnes, mais on décide d'être une personne, mais différemment, autrement. J'avais fait une performance au Palais de Tokyo en 2014 pour une exposition qui s'appelait « Des choses en moins, des choses en plus ». Et c'est une performance qui dure 4 heures. Et pendant cette performance, en fait, je suis vraiment concentrée, je suis dans un état méditatif. Et je ne regarde pas le spectateur. Et il y avait quelqu'un, en fait, après, qui m'avait interpellée en me disant, mais c'est quand même assez étrange, l'adresse que tu donnes aux spectateurs, tu ne les regardes pas, tu ne les considères pas. Et en fait, je trouvais ça pas vrai du tout. En fait, c'est pas parce qu'on regarde pas une personne ou qu'on ne se montre pas à la personne qu'on ne la considère pas. On peut, dans cette performance, en fait, je ressens et je donne de l'énergie, en fait, et je considère le spectateur, mais d'une autre manière, très discrète, mais plutôt en diffusant, voilà, de l'énergie et une atmosphère, plus qu'en l'interpellant directement, en fait, dans les yeux. Je sais pas si je réponds à...
C'est pas parce qu'on cache un objet que c'est pas une manière de le montrer.
Oui, voilà, exactement. C'est aussi toute une manière de créer un espace pour le spectateur, en fait. Un espace imaginaire, mais un espace de pensée aussi. Dans l'exposition, à la ferme du Buisson, il y a une œuvre que personnellement je trouve très drôle. Enfin, je me suis beaucoup amusée à la ferme. Ça a pris très peu de temps en plus. Mais c'est juste un carton sur lequel il y a juste un texte. C'est œuvre récente, ne pas ouvrir avant. Il n'y a pas la suite de la phrase. Et c'est une œuvre, en fait, qui potentiellement va être ouverte ou pas pendant l'exposition. Et qui... Donc c'est une œuvre récente. Mais qui répond un petit peu à cette idée de ne pas être vampirisée tout de suite, en fait, de prendre vraiment le temps. Donc j'installerai, en fait, cette œuvre si je suis prête ou pas. Peut-être pas. Peut-être qu'il n'y a rien dans la boîte, je ne sais pas. Et...
Merci.
Merci.
Béatrice Balcou.
Merci à vous.
L'économie des apostrophes, c'est le titre de votre exposition. On peut la voir à la ferme du Buisson, à Noisiel, en Ile-de-France, jusqu'au 10 février.
Sono okina, okina kuchi o shita fushigi na ikimono wa yamaoko ni sumu ojii-san no mae ni totuzen arawaremashita.おじいさんの目の前で少しだけ微笑むと今まで聞いたことのない不思議な言葉を話し始め今まで見たことのないそのあまりにも美しすぎる言葉の粒たちはおじいさんの周りでまるで生きているかのようにふわふわふわふわ舞を舞ったかと思うと南の風にさらわれていきました。
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir au son, c'était Claude Niort. Lise-Marie Barré était à la réalisation. Merci à Jeanne Aléos, Camille André, Anna Baron et Lou Quevauvillé qui pensent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.